Bonjour, nous allons commencer dans quelques instants la table ronde L'homme, une espèce en voie de disparition. Nous avons le plaisir d'accueillir à cette table ronde un auteur canadien, anglophone, Peter Watts. J'en profite tout de suite pour dire à ceux qui viendraient peut-être d'arriver que si vous ne comprenez pas l'anglais et que vous avez besoin de la traduction simultanée, on peut vous donner des petits appareils avec écouteurs. À ma gauche, là-bas, à côté de la grande plante arbre, il y a une jeune dame avec plusieurs de ces appareils pour la traduction simultanée. Donc, je pense que la plupart des personnes ont eu le temps d'obtenir un dispositif pour la traduction simultanée. Nous allons donc commencer cette table ronde, L'homme, une espèce en voie de disparition, qui est décrite ainsi dans le programme. La science-fiction a imaginé mille fins pour l'humanité, décrivant parfois une Terre régénérée poursuivant seule sa course dans l'espace. Mais scientifiquement, l'homme est-il une espèce déjà menacée? Saura-t-il échapper, par son intelligence et ses réalisations, à l'irréductible loi de la nature selon laquelle il n'est pas d'espèce éternelle? Je vais présenter brièvement les participants et puis ensuite, après une brève entrée en matière, leur passer essentiellement la parole. À ma droite immédiatement, pardon, à ma gauche, et à votre. Et à votre gauche aussi, si je ne me trompe pas. Nous avons Patrick Michel, astrophysicien né à Saint-Tropez, directeur de recherche au CNRS, où il est responsable de l'équipe TOP, théorie et observation en planétologie, du laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Il est spécialiste des petits corps du système solaire et du processus de collision. Ses simulations numériques de collision entre astéroïdes furent les premières à reproduire avec succès les familles d'astéroïdes observées dans la ceinture entre Mars et Jupiter, chacune issue d'un corps détruit par la collision. Il est l'auteur de plus de 70 publications dans des journaux internationaux à comité de lecture, d'une quarantaine de conférences invitées dans des congrès internationaux, et ses résultats ont fait la couverture de Nature et Science. Il co-dirige l'équipe scientifique de la mission spatiale Marco Polo R de retour d'échantillons d'un astéroïde primitif en cours d'étude à l'Agence spatiale européenne. Il est aussi membre des équipes scientifiques des missions Osiris-Rex de la NASA et Hayabusa 2 de l'Agence spatiale japonaise, dont les lancements sont prévus en 2016 et 2014 pour rapporter des échantillons d'astéroïdes géocroiseurs. Il participe aussi à plusieurs projets de déflexion d'astéroïdes et est responsable du groupe de travail chargé des simulations numériques de déviation d'astéroïdes par impact dans le consortium européen NEOshield, financé par la Commission européenne. Il ne craint pas la vulgarisation, ayant écrit sur ses travaux aussi bien dans la recherche que dans Ciel et Espace. L'astéroïde 7561 porte son nom en reconnaissance de ses travaux sur la dynamique des astéroïdes qui croisent la trajectoire de la Terre. Nous avons donc affaire à un corps céleste et pas seulement une présence humaine. Au centre de cet aréopage, nous avons Denis Bajram. Né aux portes de Paris en 70, il dessine déjà de petits albums de BD à 8 ans. Après la fac de sciences, il étudie aux Beaux-Arts puis aux Arts déco de Paris. Parallèlement, il est très actif dans divers fanzines BD. En 96, il publie chez Delcourt son premier album, Cryozone, sur un scénario de Kaito. En 98, les éditions Soleil lui permettent de devenir auteur complet avec Universal War One. Traduit aux USA chez Marvel, devenu une référence dans le domaine de la science-fiction, il fonde avec sa compagne, la scénariste Valérie Mangin, les éditions Cadran. Ils réalisent ensemble deux étonnants albums concept, Trois Christs et puis Abîme. En parallèle, Denis colle un jeu vidéo, Urban Terror. Après Paris, Angoulême et Bruxelles, il vit maintenant à Bayeux, en Normandie, où il travaille sur une adaptation d'Universal War One au cinéma et sur Universal War Two, la suite tant attendue chez Casterman. Dans Universal War, il décrit la destruction de la Terre, coupée en deux par une arme à base de wormhole, trou de ver, dans le cadre d'un conflit entre entreprises coloniales dans le système solaire et les restes de la puissance publique sur Terre. Enfin, à l'autre bout, nous avons Peter Watts, auteur de plusieurs romans, d'un jeu vidéo, de nombreuses nouvelles et d'une rubrique mensuelle dans un magazine polonais de science-fiction. C'est un ancien biologiste marin qui vit maintenant à Toronto. Ses œuvres ont été traduites en 18 langues et il a reçu des prix et nominations dans 7 de ces langues. Vision aveugle, livre que vous pouvez acheter à la librairie. Son dernier roman, paru au Fleuve Noir en 2009, a notamment reçu le prix du meilleur roman traduit en Espagne, celui du meilleur roman étranger en Russie, ainsi que des prix Sphinx et Nast en Pologne. Il a aussi remporté le prix Jacques Chambon, Grand Prix de l'Imaginaire 2010, pour la meilleure traduction par Gilles Goulet. Cependant, malgré de nombreuses nominations, le roman n'a pas remporté de prix dans sa langue d'origine. D'après l'auteur, cela pourrait suggérer qu'il doit beaucoup à ses traducteurs et il se propose de chercher un moyen de retraduire Vision aveugle en anglais. Son prochain roman, Echopraxia, sera publié en 2014. Précédemment, il a fait paraître en France Starfish, Fleuve Noir 2010, Rifter, Fleuve Noir 2011 et Behemoth, Fleuve Noir 2012. Il se délecte des scénarios apocalyptiques et, pour citer le critique ontarien James Nichol, « Quand ma volonté de vivre vacille, ou non, pardon, quand ma volonté de vivre prend trop de place, je n'ai qu'à lire Peter Watts. » En guise d'entrée en matière aussi rapide que je peux le faire, je rappellerai que la durée de vie moyenne des espèces vivantes est parfois donnée comme étant de 10 millions d'années. Donc, selon quand on regarde les fossiles, quand on regarde l'apparition d'une nouvelle espèce et la disparition, on trouve à peu près une durée de 10 millions d'années. Pour les mammifères, c'est plus court, 1 million d'années. Si on considère l'espèce humaine, vieille de 200 000 ans environ, et dont nous connaissons à peine peut-être ou très approximativement le dernier quart de cette histoire, je me suis amusé à la résumer rapidement pour ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire, cela ne donnerait que peut-être 800 000 années encore à vivre à l'espèce humaine. Je noterai aussi que certains biologistes considèrent que l'humanité est devenue une nouvelle force géologique, si ce n'est qu'au sens littéral du terme, dans la mesure où un géomorphologue de l'Université du Maine estimait que chaque année, les êtres humains déplacent une plus grande masse de composants de la croûte terrestre que tout autre facteur. 40 gigatonnes. Il faut penser à toutes les constructions de routes, les excavations de mines, les maisons dont on creuse les fondations, et ainsi de suite. 40 gigatonnes de roches, de terre, de sable qui sont déplacées par l'humanité, comparativement à 38 gigatonnes de poussière accumulée d'origine extraterrestre, 37 gigatonnes de sédiments transportés par les rivières et fleuves, 13 gigatonnes, sans doute en termes nets, déplacées par la tectonique des plaques, 4 gigatonnes déplacées par les glaciers et 2 gigatonnes par les vents et l'action des vagues. En même temps, l'humanité serait la grande responsable d'une nouvelle grande extinction qui risque de caractériser cette ère géologique définie par l'influence humaine, que l'on appelle parfois l'anthropocène, de par sa pollution de tous les environnements. On peut même penser à la Lune. Une des premières choses que des hommes ont fait avant de poser le pied sur la Lune, ça a été de jeter un sac d'ordures. Et la destruction de nombreux habitats qui résultent de sa poussée démographique récente. Le 20e siècle est assez clairement illustré dans cette diapo. En raison des décalages entre la destruction passée d'habitats divers et la disparition éventuelle des espèces menacées, on a évalué que jusqu'à 30% des animaux et des plantes pourraient disparaître d'ici 100 ans. Ce qui soulève une question à laquelle on répondra peut-être. Si l'humanité provoque des extinctions, ceci augmente-t-il ou réduit-il ses chances de survie à long terme? En adoptant une perspective plus large, on peut également s'interroger sur la pérennité de l'humanité, non comme espèce animale, jusqu'à maintenant j'ai comparé l'humanité à des espèces animales que l'on connaît, mais comme espèce intelligente. Pour ce faire, il faut se tourner vers le paradoxe de Fermi. Celui-ci se résume en quelques mots. Dans l'état de nos connaissances sur l'univers, nous croyons savoir que les conditions qui ont présidé à l'apparition de la vie sur Terre ont dû être répétées des milliers de fois dans notre seule galaxie. De plus, le temps de diffusion dans la galaxie d'une espèce intelligente ou de ses productions, les ondes radio comprises, se situe entre 100 000 ans et 900 millions d'années. Or, notre galaxie a au moins 10 milliards d'années, ce qui laisse amplement le temps à l'intelligence de s'y propager sous plusieurs formes depuis les débuts. Or, l'intelligence extraterrestre, et même certaines personnes diraient terrestre, semble absente de notre système solaire. D'où un paradoxe et une question, où sont-ils tous? Si nous sommes seuls dans l'univers, et plus particulièrement dans ce système solaire, cela laisserait supposer que la longévité des espèces intelligentes est réduite. Alors, j'ai commencé par me tourner vers Denis et Peter pour leur poser la question, en tant qu'auteur, quelles sont quelques-unes des fins de l'humanité imaginées par la science-fiction que vous trouvez les plus plausibles, y compris dans votre propre fiction. Et je demanderai ensuite aux scientifiques, après, quelle est, selon lui, une des menaces, les menaces les plus réelles ou la plus réelle. Denis, Peter? This work?
Yes. I would say probably in terms of the most plausible extinction scenario, it's going to have to involve something that replicates. We're going to be talking something, either a gray goose scenario, some kind of a nanoplague, or probably more likely just somebody manages to flip a couple of base pairs on anthrax and turn it into something that wipes everybody out. I'm a little less taken by some of the other... I've thought a fair amount over the course of my writing career on various ways the world could end. I have posited a civilization, at least, to be sort of driven into extinction by everything from space vampires to intelligent clouds to a kind of a hydrothermal rift organism that is based on pyranosal RNA and compromises our sulfur bond. So I do everything, I sort of cover the plausibility spectrum in terms of thinking about the ways that we could check out. But speaking again as a former scientist, I would probably have to put my money on some kind of a microbial accident where we can hardly go a week or a month these days without some new and virulent kind of plague arising just as a function of natural selection generating new resistances to old solutions, old drugs. And it's probably only a matter of time before somebody gets in there and puts smallpox onto steroids or something. And that, I think, is going to be very, very difficult to stop. Maybe the closest science fiction analogy I could come up to would be Frank Herbert's White Plague, which I think came out in the 70s, maybe the early 80s. Over to you.
Ce qui est amusant en SF, en fait, c'est que une des premières tentatives d'extinction de l'humanité qu'on voit dans la science-fiction, c'est la guerre des mondes, où les extraterrestres débarquent apparemment pour annihiler les humains, en tout cas leur piquer leur planète. Et en effet, c'est un virus finalement qui finit par tuer les extraterrestres eux-mêmes. Donc on rejoint ce qu'on vient de dire là, à part que c'était pas pour l'humanité ce coup-là. En SF, c'est très ambigu le rapport à la destruction des humains, parce que on peut peut-être dire pourquoi les auteurs le font. Déjà, c'est qu'en général, c'est le sentiment qu'on est menacé en tant qu'espèce qui nourrit la SF. Moi qui suis comme beaucoup d'auteurs de SF assez pessimiste, si j'ai fait une destruction de monde, c'est réellement dans l'idée d'essayer d'empêcher celle-ci d'arriver. Parce qu'il y a toujours cette envie, je pense, chez tous les auteurs de SF, de décrire une destruction de l'espèce humaine pour éviter que celle-ci arrive, ou en tout cas pour qu'on prenne toutes les précautions possibles pour qu'elle n'arrive pas. Donc on a vraiment ce problème-là en SF qui est vieux, aussi vieux que la SF. C'est une des grandes branches de la science-fiction. Et dans mon cas précis, moi j'ai voulu parler d'une destruction d'ordre quasiment politique, en tout cas sociale, qui est une de celles dont on parle pas tant que ça en science-fiction. Alors qu'elle a été là à un moment très fort dans la SF pendant la guerre froide. L'immense sentiment qu'on allait se nucléariser entre les deux côtés, dont le sommet dans la science-fiction au niveau grand public est la scène finale du premier film La Planète des Singes, où devant les restes de la statue de la Liberté en morceaux, le dernier survivant quasiment des humains s'écrie « Ah, les cons, ils l'ont fait !» Voilà. On est vraiment là-dedans, dans le prototype de l'ASF que moi je pratique, où la destruction de l'humain a clairement pour but d'essayer d'empêcher cette destruction. Puisque je pense que les auteurs Pierre Boulle, quand il écrivait le roman, ne parlait pas de guerre nucléaire, mais il était sur les mêmes sujets quand même. Et alors, le film particulièrement, je pense que les auteurs de ces films-là, du scénario du film, avaient vraiment envie de faire une image hyper marquante pour essayer de pousser le maximum de gens à dénoncer la croissance des armes du nucléaire dans le monde. Et en l'occurrence, quelques années après, on va assister à un début de détente sur ce terrain-là. Donc il y a vraiment une fonction comme ça sociale de la SF par rapport à la destruction. Elle est d'autant plus valable quand elle concerne des sujets que nous provoquons nous-mêmes. C'est vrai qu'on y viendra, mais la destruction par un phénomène stellaire est un peu moins prévisible et un peu moins facile à empêcher. Donc souvent, la SF va parler de destruction provoquée par l'homme, sur l'homme, Et moi, en l'occurrence, j'ai décrit un moment de conflit où les entreprises privées qui ont conquis le système solaire se retrouvent en conflit avec, ce qui reste de l'ONU, en gros, qui a pris le contrôle de la Terre et de Mars. Et tout ça pour réellement le contrôle du territoire, une bonne vieille guerre, comme on a su si bien les faire en Europe, et qui laisse, en l'occurrence, à la fin de ma bande dessinée, le système solaire en plus mauvais état que n'était Berlin à la fin de la guerre.
Oui, bonsoir. Donc, moi, je ne vais pas vous parler de SF, quoique certains scénarios, même réalistes, inspirent parfois les films de science-fiction. Donc, alors, comme on a vu, André Braille, qui était très positif avant nous, je vais essayer d'être positif d'abord. Si on parle de la survie de la vie, je pense que celle-là, elle est quasiment garantie, parce que autant on ne sait pas former la vie en laboratoire, par contre, on sait la détruire, c'est encore moins simple. C'est-à-dire que la vie, elle est très robuste. On a eu des extinctions d'espèces ponctuellement, il y a 200 millions d'années, il y a 65 millions d'années, les dinosaures, etc. Mais à chaque fois, il reste une petite bactérie, il reste quelque chose qui va refaire redémarrer une vie. Et en général, on va au plus en plus sophistiqué, au plus en plus intelligent. Donc il est probable que même si on a un virus qui nous éradique, il y aura toujours une bactérie plus forte que lui pour résister et pour aller plus loin. Donc au niveau de la vie elle-même, je pense qu'on peut dire qu'elle n'est pas près de disparaître. En tout cas, dans l'univers. La Terre, elle est pour l'instant dominée par les hommes en tant qu'êtres intelligents. Et eux, c'est vrai, ils ont peut-être un peu moins d'espoir en tant qu'espèce, bien qu'on va voir, ils peuvent éventuellement aller plus loin. Donc déjà, il y a une première échéance qui est sûre, celle-là. C'est dans 4 milliards et demi d'années, quand le Soleil aura converti tout son hydrogène en hélium, eh bien, il va grossir avant de se rétracter et il va avaler la Terre. Donc de toute façon, dans 4 milliards et demi d'années, si on n'est pas parti de la Terre, eh bien, on mourra avec une mort peut-être pas très agréable du fait de la fin de la vie du Soleil. Alors avant ça, il y a d'autres échéances qui peuvent arriver. Donc d'abord, effectivement, il y a l'homme lui-même qui peut être une menace, puisque jusqu'à présent, toutes les découvertes scientifiques qu'on a faites ont eu comme première application une arme. Dans les années, au début du XXe siècle, on a découvert l'atome, et il n'a pas fallu quelques dizaines d'années pour qu'on mette en œuvre un projet de bombe atomique et qu'on l'utilise. Donc on produit une arme, on l'utilise. On a trouvé la poudre, on a fait le canon, on l'a utilisé. Donc quelle sera la prochaine arme que l'on pourra faire? Quelle sera la prochaine découverte, notamment en mécanique quantique, qui fera qu'on, probablement, on développera encore une arme et qu'on l'utilisera? C'est un petit peu ça le risque. Et c'est d'ailleurs ce qui est utilisé par Fermi pour dire que peut-être que s'il y a des civilisations qui se sont développées avant nous dans d'autres systèmes solaires, et on pense que c'est probable, hein, il y a 200 milliards de galaxies dans l'univers et 200 milliards d'étoiles dans chacune des galaxies, donc la probabilité qu'il y ait une autre vie ailleurs quand même est assez grande. Et il est possible que quand une civilisation a une technologie aussi puissante qu'elle peut la faire voyager très loin, eh bien elle l'utilise d'abord contre elle. Et donc, à chaque fois, eh bien, avant d'aller plus loin, elle est détruite. Bien sûr, sous réserve que tous les êtres vivants fonctionnent comme nous, ce qui n'est pas garanti. Donc, après, l'homme lui-même, il y a les risques naturels, tremblements de terre, etc. Mais à l'échelle du globe, c'est très difficile d'avoir un risque naturel terrestre qui peut éradiquer toute l'humanité. On peut avoir des risques ponctuels, on l'a vu, hein, les tsunamis, etc. Mais à l'échelle du globe, c'est plus compliqué. Alors, il y a la menace céleste, effectivement. Et là, on sait qu'on a une population de petits corps qui sont des astéroïdes, qui sont entre Mars et Jupiter. Et on sait que régulièrement, ils rentrent en impact avec la Terre. On a à peu près 100 000 tonnes de matériaux par an qui rentrent dans l'atmosphère sous forme de poussière, bien sûr, ou alors de petits cailloux que l'on récolte. Mais de temps en temps, on a des corps beaucoup plus gros qui rentrent en collision avec la Terre et qui peuvent faire des dégâts régionaux, voire globaux. 10 km de diamètre, c'est la taille de l'objet qui a au moins contribué à éteindre les dinosaures. Et ça se produit tous les 100 millions d'années. Un objet de 1 km, c'est tous les 500 000 ans à 1 million d'années, et ça fait disparaître 25% des espèces vivantes. Donc, des objets de 10 km, heureusement, il n'y en a aucun qui nous menace, c'est tous les 100 millions d'années. Ça veut dire, sur une échelle de temps bien plus courte que la durée de vie du Soleil qui va mourir dans 4 milliards et demi d'années. Donc, on sait qu'on aura à faire face à cette menace à un moment donné, mais bien sûr, sur des échelles de temps tellement longues que là encore, on a l'espoir que d'ici là, l'être humain aura développé les capacités de se protéger de ce risque-là. Et d'ailleurs, on y travaille déjà pour des corps beaucoup plus petits. Bon, la dernière menace que je dirais, je ne vais pas monopoliser la parole, c'est effectivement l'arrivée d'une bactérie sur Terre. Alors ça, c'est déjà un peu plus pour nous, borderline en anglais, science-fiction, parce que même les météorites, quand elles arrivent dans l'atmosphère, elles brûlent tellement que tout matériau organique qui pourrait représenter un danger est cramé. Donc ce n'est pas le risque. Mais par contre, on pourrait envisager que lorsqu'on va faire un retour d'échantillons martiens, par exemple, même si on a toutes les protections, les mécanismes de protection planétaire mis en œuvre, dans un scénario un peu science-fiction, pour envisager qu'on ramène une bactérie qui probablement sera nocive si elle est mise à jour, parce qu'on a les anticorps pour tout ce qui est sur la Terre, mais pas pour ce qui est amené vers l'espace. Donc ça, c'est un risque auquel je ne crois pas, bien sûr, mais on ne peut pas, en tous les cas, éliminer complètement si on veut faire un peu de science-fiction.
Il y a plus de chances qu'on la fabrique nous-mêmes, cette bactérie.
Alors ça vient dans le scénario où on développe des armes qu'on utilise contre nous. Effectivement, il n'y a pas que les bombes atomiques, etc. Il y a aussi les virus qui pourraient absolument produire ça.
Et ayant fait le tour de certaines des menaces vraisemblables, car il y aura aussi une autre table ronde où on parlera quand la nature contre-attaque de toutes sortes d'autres cataclysmes potentiels, si on se tournait aussi un peu vers les menaces les plus invraisemblables qui mettent fin à l'humanité dans la science-fiction ou ailleurs, et on peut peut-être donc faire appel de nouveau à nos auteurs. Qu'est-ce que vous avez vu passer comme scénario de la fin de l'humanité qui vous ont paru, disons, comme plus farfelu que certaines, comme hypothèse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit?
La plus farfelue que j'ai vue, c'était la mort de Dieu qui tombait dans l'océan et les gens s'entretuaient à cause de ça pour récupérer le cadavre et puis ils croyaient plus à rien. Enfin voilà. Donc dans le genre n'importe quoi, celle-là était pas mal. Je sais plus comment s'appelle ce roman.
C'était de James Morrow.
Voilà.
Towing Jehovah en anglais.
Bon.
En français, je ne me souviens plus.
En remorquant Jéhovah ou un truc comme ça. Ouais.
Peut-être.
Oui. Voilà. Donc là, c'est peut-être le pire. Après, on a souvent quand même alors les gens qui inventent un trou noir dans leur salon, enfin ou dans leur labo, qui a quand même réussi ces derniers temps à faire tourner beaucoup Internet, puisque plein de gens étaient persuadés que le nouvel accélérateur du CERN serait capable d'ouvrir un trou noir et donc qui engloutirait un micro trou noir. Alors déjà, la notion est intéressante, qui engloutirait la Terre immédiatement. Mais il a quand même fallu, je crois, au CERN mettre quelques équipes dessus pour vraiment que ça arrête de tourner sur Internet. Enfin, en dehors des complotistes qui sont persuadés que les Illuminati contrôlent le CERN, donc quoi qu'il se passe, on nous cache tout. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le genre bien farfelu? Moi, j'ai fait une hypothèse farfelue dans ma bande dessinée, puisque c'est un wormhole qui est ouvert en orbite autour de la Terre, un wormhole orienté, ce qui fait qu'il aspire la structure de l'espace-temps uniquement dans un sens, générant une sorte de fin pinceau qui est capable de couper la Terre en deux et qui coupe donc la Terre en deux. Donc la Terre se disloque. Évidemment, les morceaux n'étant pas équilibrés, ils se mettent à tourner dans le mauvais sens, les uns par rapport aux autres, et on se retrouve avec un tas de cailloux où il faudra à nouveau quelques centaines de milliers d'années pour qu'ils se rassemblent, refassent une boule et puis que tout recommence. Là, je suis pas sûr quand même que la vie survivrait à ça.
Oui, peut-être pas, mais c'est intéressant quand même parce que les astéroïdes, d'ailleurs j'ai des films qui pourraient le montrer si on les montre, subit ce genre de mécanisme. Donc ça vous montre. L'image là, mais voilà. Ça vous montre les astéroïdes qu'on a survolés ou auxquels on a rendu visite jusqu'en 2011. Le plus gros fait 100 km. Alors j'ai mis jusqu'en 2011 parce que la prochaine diapo vous montre en 2012. Le plus gros se trouve donc maintenant en haut à droite et le plus gros au centre, c'est Vesta qui fait 500 km de diamètre. Alors si je peux vous montrer quelque chose qui va tout à fait dans ce que dit monsieur, c'est qu'en fait, les astéroïdes, ils subissent exactement le processus qu'il a décrit, puisque quand, dans la ceinture des astéroïdes, eh bien, des objets rentrent en collision les uns avec les autres, voilà ce que ça produit. Oui, si ça, le film veut bien marcher. Voilà, ça produit, en fait, des petits fragments de quelques centaines de mètres de diamètre qui sont en verre, qui se dispersent, et sous l'effet de leur propre attraction, eh bien, ils se réaccumulent et ils forment des agrégats. Et dans cette simulation hein, qui est issue d'un calcul mathématique, je dis ça pour les jeunes, vous voyez, en faisant des maths et de la physique, vous faites des beaux films qui refont des astéroïdes. C'est des calculs qui ont pris 6 mois sur des ordinateurs avec 128 processeurs. Eh bien, on voit qu'on forme exactement certaines formes d'astéroïdes observés. Donc finalement, même dans la science-fiction, parfois, on envisage des choses. Effectivement, si la Terre, et c'est d'ailleurs la Lune a été formée comme ça, la Lune a été formée par l'impact d'un corps de la taille de Mars qui a tapé dans la Terre et ça a formé un disque de débris qui s'est réaccumulé et qui a formé la Lune. ce qui est exactement ce que vous décriviez. Bon, alors le mécanisme pour détruire la Terre, ça reste de la science-fiction.
La pure.
Mais le résultat est tout à fait cohérent avec notre compréhension maintenant de la façon dont les corps se détruisent, se réagrègent pour former des agrégats qui nous survolent.
Après, il y a tous les grands cataclysmes, le sursaut gamma à proximité, par exemple, le trou noir errant aussi, on nous parle de tout ce genre de choses, bon, qui nous menacent quand même sans doute pas beaucoup. Mais
il y a eu un film d'Hollywood que j'ai vu là-dessus. On m'a appelé un soir pour me dire, Patrick, si tu es chez toi, allume la télé, il y a un film qui parle des astéroïdes. J'ai dit, ah bon. Et en fait, non, c'est une étoile à neutrons qui vient près de la Terre, et c'est quand même un film. Quelqu'un a payé pour faire un film là-dessus. Bon.
Peter?
Well, I got nothing to compete with that. In terms of the obvious, most unlikely, other than I really like the idea of a time-space
laser.
I was thinking more of a bandsaw or a chainsaw. You know, it's actually I think that was and the idea of a tame black hole being used for universal annihilation was also the kernel of an episode of The Simpsons. I don't know if you guys get The Simpsons over here. It was a Treehouse of Horror episode, but I think the most obvious popular unlikely end of the world scenario probably has to do with alien invasion. It's a very cool idea to play around with, and I've sort of poked at it myself a little bit, but it is basically predicated on the idea that something that has the resource base and the technological sophistication to travel en masse from, you know, at interstellar distances is also going to find something on Earth that it really can't get cheaper somewhere else.
Water?
Water has frequently been cited, but if you're smart enough to you know, build a spaceship to get you from Barnard Star, you're probably smart enough to notice those comets on the way in, too. And you don't have to haul that stuff out from a massive planetary-sized gravity well. One of the scenarios that seems to actually be getting a fair bit of airplay in the popular news cycle and so on, which is also fairly science fiction, is the whole Skynet scenario. The idea that some kind of an artificial intelligence is going to wake up, and whether it's because we've already hooked it up to the world's nuclear arsenal or because it's got some other way of manifesting its desires on the planet. It basically takes over. There was recently a paper that IO9 actually touted under the heading, you know, this mathematical equation shows that Skynet could be inevitable, and it was basically something about how the universe works to maximize entropy and that a certain interpretation of information theory would essentially cause everything to become destructive. It's IO9. You can't take it with a much less than about 8 cubic tons of salt. But the primary scenario always seems to be that the AI rebels, or the AI resents its slavery, or the AI is trying to protect itself. The Skynet scenario, the literal Terminator Skynet scenario, was an act of self-defense. And all of these things imply agendas which arise, at least in organic life, from evolved structures. You've got a limbic system. You've got a brainstem. You've got an amygdala that makes you feel hungry and scared. Intelligence itself does not, I think, necessarily connote an agenda. So if you're highly intelligent, you can even be self-aware. But if you don't have a brainstem, if you don't have a survival instinct that's been either honed into you over millions of years of evolution or perhaps distinctly programmed into you, which why anybody would do that, I don't know, you really wouldn't give a rat's ass whether you lived or died. And so I find the what some people consider to be a relatively plausible scenario, I don't buy that. I could be wrong. I could be, you know, coming from a biologist's point of view, you know, when you're a carpenter and all you have is a hammer, all you see is nails, maybe as a biologist all I'm seeing is soft, squishy little brains and evolved structures. But it seems to me that an uprising of the machines is pretty unlikely. That said, there could be a benign uprising of machines. 2001 did it fairly well by just basically saying that the programmers were stupid enough to program HAL for two conflicting agendas, neither of which explicitly involves killing all the astronauts, but it just turns out that, in fact, according to HAL's particular thought processes, the best way of accomplishing the mission was involved doing that. And I could see us making all sorts of really stupid mistakes in terms of programming and artificial intelligence. But really, that would be a form of inadvertent suicide. That wouldn't really so much be something rising up in opposition to its own enslavement.
Merci. À force de parler de mini-trous noirs, j'ai quand même envie d'intervenir à titre personnel parce que, bon, il y a un de mes collègues écrivains de science-fiction au Canada qui avait écrit une longue nouvelle sur l'idée, effectivement, qu'un petit trou noir libéré dans la Terre pourrait finir par l'avaler. Et à l'époque, j'étais en physique et j'avais fait certains calculs parce qu'il y a en fait une certaine gamme de masse et après ça va dont dépend en fait le sort de la Terre, parce que si le trou noir en question est très petit, ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking risque de le dissiper en très peu de temps avant qu'il ait pu avaler la Terre. Il faut en fait une sorte de masse minimale qui est assez importante, je ne me souviens plus des chiffres exacts, pour que le rayonnement de Hawking soit suffisamment petit pour que l'accrétion de la matière terrestre commence à entraîner une sorte d'effet boule de neige qui pourrait réduire la Terre à essentiellement un trou noir de 2 cm de diamètre.
Pardon, il faut peut-être expliquer ce qu'est un trou noir. Parce que...
Je vais garder un peu de temps pour les questions à la fin parce que je vais... tout de suite vous poser une dernière question avant la ronde finale et une période de questions pour la fin. Jusqu'à maintenant, on attribue d'habitude les disparitions d'espèces à l'opération de trois facteurs. Il y a la prédation, c'est-à-dire lorsque l'humanité rencontre un concurrent plus redoutable qu'elle, et quelque part, les machines de Skynet, on pourrait considérer ces machines comme des prédateurs. Il y a les maladies, et on a évoqué aussi les maladies plusieurs fois. Et il y a les altérations de l'habitat. Et évidemment, si on fait sauter la Terre pour qu'elle soit en deux morceaux ou en plusieurs morceaux, ou si la Terre se fait frapper par un astéroïde qui la fracasse en 1000 miettes, on peut parler d'altération de l'habitat. Et donc la question que l'on pourrait poser aussi, c'est comment l'humanité pourrait-elle survivre à ces différentes menaces? Prenons le côté un peu optimiste de la chose, et d'ailleurs je sais que notre scientifique travaille sur la protection de la Terre, il n'est pas un super-héros, mais... Il s'en charge aussi un peu. Et donc, et peut-être même, si on peut même regarder plus loin, peut-on échapper au destin biologique de l'espèce humaine? Et peut-être même, peut-on échapper au destin de la destruction de la Terre quand le Soleil l'avalera? Alors, je ne sais pas si le scientifique veut aborder cela en premier ou...
Ouais. Oui. Oui, alors ça, c'est une question intéressante. C'est comment est-ce qu'on peut échapper à notre destin? La seule manière, ça sera effectivement d'essayer de partir de la Terre. Parce qu'on peut ponctuellement se protéger des menaces. Donc, par exemple, c'est très difficile de se protéger des tsunamis, des tremblements de terre qui sont très durs à prédire. Pour des astéroïdes, on pourrait faire l'inventaire et puis ensuite envoyer une sonde, par exemple, pour faire un impact pour le dévier. Alors, hors de question d'envoyer Bruce Willis. D'abord, il est trop cher. Et puis, en plus, ce qui est fascinant dans les astéroïdes, c'est qu'ils sont tout petits. Donc, ils n'ont pas de gravité. Donc, quand vous êtes sur un astéroïde et que vous tapez avec votre marteau-piqueur comme veut le faire Bruce Willis, le simple fait de taper, vous remontez tout de suite parce que vous ne restez pas accroché sur l'astéroïde. Donc, c'est très, très compliqué d'évoluer sur un astéroïde. Il vaut mieux essayer de le dévier. Et encore qu'on ne l'a jamais encore tenté, on a plusieurs méthodes, mais tout ça, c'est à tester. Donc, c'est des petits mondes fascinants de ce point de vue-là. Mais après, hormis ce risque d'impact, de toute façon, à un moment donné, il faudra bien partir de la Terre. Et c'est pourquoi on a un programme d'exploration dans toutes les agences spatiales mondiales. Hein. Alors, on est allé sur la Lune. La prochaine étape, c'est pour l'instant, justement, d'aller sur un astéroïde. C'est le président Obama qui a donné ça comme étape pour la NASA avant d'aller sur Mars. Mais ensuite, effectivement, c'est d'aller sur Mars, ce qui est très compliqué, parce que pour aller sur Mars, il faut plusieurs années, et il faut pouvoir, d'une part, affronter le problème des radiations du Soleil, parce que vous savez qu'on est protégé sur Terre par notre champ magnétique, qui produit cette ceinture de Van Allen. C'est pas qu'un groupe de hard rock, c'est aussi une ceinture de gaz ionisé qui permet de protéger des particules les plus nocives du soleil. Sans ce champ magnétique, nous serions tous déjà morts. Donc on peut pas aller très longtemps dans l'espace sans être exposé à des particules nocives. Donc déjà, il faut pouvoir résoudre ce problème-là, et c'est compliqué. Puis ensuite, le problème psychologique. Et ça sera intéressant à tester, parce que comment est-ce qu'on va pouvoir vivre dans une toute petite capsule pendant plusieurs années avant d'atteindre Mars, sans, déjà pour un couple divorcé, hein, il y en a qui divorcent en quelques jours, on a vu ça, donc en moins de 2 ans, réussir à faire une équipe soudée qui va pouvoir évoluer. C'était le même challenge qu'avaient d'ailleurs les marins, hein, sur les bateaux qui allaient Christophe Colomb à l'exploration des Indes. Et ensuite, il faut pouvoir accepter. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, c'est d'accepter, une fois qu'on est sur Mars, de voir la Terre comme un petit point bleu. C'est-à-dire qu'on ne verra pas la Terre comme elle est, on verra qu'un petit point bleu lumineux. Et le signal pour pouvoir discuter avec votre épouse, par exemple, il mettra beaucoup de temps avant d'arriver vers la Terre, donc ça ne sera pas des communications instantanées. Vous voyez comme on s'énerve avec nos téléphones quand ça ne marche pas. Imaginez depuis Mars. Et ça, ce n'est pas anodin, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec Buzz Aldrin, qui est allé sur la Lune. Et en fait, il m'a expliqué qu'une des choses qu'aucun astronaute n'avait envisagé psychologiquement, alors qu'ils étaient super préparés, hein, quand les Américains sont allés sur la Lune, c'était où eux, les Russes, c'était vraiment un enjeu presque de guerre. Donc ils ont pris les personnes les plus équilibrées, et pourtant, tous ont eu un bouleversement qu'ils n'avaient même pas anticipé, donc on ne peut pas le prévoir, c'est quand ils ont vu la Terre, alors qu'ils étaient accrochés sur une autre surface. Et encore, ils la voyaient, la Terre. Donc quand on sera sur Mars, ça sera un tout petit point bleu. Donc c'est des étapes, des challenges qu'il faudra mener. Alors on a le temps, hein, puisque les échéances humaines, j'espère, vont au-delà de quelques siècles. On est allé sur la Lune à peine en un siècle, hein, finalement, à partir du moment où on a commencé à développer les technologies. Donc on peut espérer que dans quelques millénaires, si l'espèce humaine est encore là, elle aura appris à voyager, peut-être à se déplacer au moyen d'astéroïdes, pour pouvoir continuer la survie de l'espèce. Mais comme je vous l'ai dit, les conditions de vie humaine sont très contraintes. Il faut un champ magnétique, il faut de l'eau, etc. Et ça, c'est assez compliqué.
I think we're talking way too small about this. All the scenarios we've been discussing so far basically involve standard, totally understandable things, psychological stress, biological needs. But what we're supposed to be talking about is what's going to wipe out humanity in a million years, in 20 years. And really, that kind of raises the question, what is humanity? What do you think about us? What is a species? You are not a different species from your parent or your grandparent or the grandparent before that. You go all the way back in time. You've got a complete genetic continuum all the way back to the therapsid lizards. So a species is not something that stays fixed in time. Humanity is not something that stays fixed in time. We like to talk about 4 million years of walking erect. We like to talk about 50,000 years of culture or 500,000 years of approximate, you know, human brain size. But in fact, at each point, you know, evolution occurs over a very, very small period of time. What a species is, essentially, is a cross-section cut across the entire tree of life that allows us to look at what the various twigs are doing at a given period of time, but those twigs continue to grow. So perhaps we should also be thinking about what do we consider, for example, an uploaded emulation of a human brain to be part of humanity, once we have had ourselves genetically engineered into blue-eyed octopi which are immune to cosmic rays, or which perhaps use some kind of gallium arsenide-based genetic code that doesn't have to worry about most of the things that you... These things, I mean, do we want to consider these things human?
Yeah, okay, I was thinking... pardon. je parlais des humains tels qu'ils sont maintenant, naturellement. Si on étend la définition de l'humanité aux espèces vivantes, là, je suis tout à fait d'accord. On peut, alors là, aller beaucoup plus loin et étendre, et à la limite, je ne suis même pas sûr qu'on est capable de prédire dans quelles conditions on pourra survivre. Par exemple, il y a un bon exemple pour ça, c'est qu'on définit des critères de zone d'habitabilité pour les planètes qu'on observe autour d'autres étoiles. Vous savez qu'on observe maintenant des planètes autour d'autres étoiles. On a maintenant plus de 900 planètes découvertes autour d'autres soleils. Et pour l'instant, aucune n'est dans la zone habitable. Alors justement, qu'est-ce qu'on appelle la zone habitable? Est-ce que c'est la zone habitable pour l'être humain? À ce moment-là, oui, mais c'est très restreint. Si on parle d'espèces vivantes, la zone habitable s'étend beaucoup plus loin, et même beaucoup plus loin qu'on peut même l'imaginer maintenant, puisqu'il y a encore à peine quelques années, on n'envisageait pas que le vivant puisse vivre sans photosynthèse. Et on a découvert au fond des océans des êtres vivants qui peuvent fonctionner sans lumière. Donc effectivement, on peut absolument envisager que l'évolution des espèces va être telle qu'à un moment donné, même ce que j'ai dit sur le champ magnétique terrestre et les radiations, ne soit plus un problème. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je parlais des êtres humains tels qu'ils sont maintenant.
Néanmoins, on pourrait... On revient un peu à la distinction que j'ai soulevée au début entre l'humanité espèce biologique et l'humanité comme espèce intelligente. On peut effectivement imaginer une humanité qui n'aurait pas une forme humanoïde, qui serait téléchargée sous forme numérique quelconque. Cependant, évidemment, tant que l'humanité biologique ou que ses descendants informatiques, numériques restent sur Terre, certains des risques que nous avons évoqués resteraient. Et donc, le départ de la Terre reste aussi quelque chose d'important. Denis?
Moi, j'ai un peu l'impression qu'on est... Si on a ce débat aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on sent tous qu'on est dans un moment clé. C'est-à-dire qu'on a rempli la planète, qu'on est un peu en train de se comporter comme un nuage de criquet qui est en train de dévaster le champ, et on se demande si on va avoir les solutions, qu'elles soient dans technologique, du voyage, biologique, pourquoi pas, un changement de support pour la vie, dans l'absolu, si on aura ces solutions-là avant d'avoir totalement dévasté notre habitat. Et moi, je fais partie des gens qui ont un peu l'impression que de l'accélération de la dévastation de ces dernières années, le fait qu'à la première crise économique, toutes les meilleures velléités écologiques se sont arrêtées du jour au lendemain un peu partout sur la planète, que je fais partie des gens qui pensent malheureusement qu'on est en train de... cette fenêtre de tir pour se sortir de la planète ou des blocages de notre forme biologique, enfin de tous ces genres de choses, va être tellement courte qu'on aura ravagé notre habitat avant. Et parfois, pour revenir sur le scénario des intelligences artificielles, j'ai parfois l'impression que la seule chose qui va avoir le temps d'éclore dans cette période-là va être les intelligences artificielles, qui, elles, seront capables de quitter notre planète à temps, si par hasard la biologie humaine, hein, on ne parle pas du reste de la vie, hein, là, elle continuera, arriver à un désastre tel qu'on retournerait à l'âge des cavernes, on va dire. Voilà.
Alors, il y a deux choses là-dessus. C'est que c'est vrai qu'on est très polluant. Une espèce vivante, elle est extrêmement polluante. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce problème de contamination. Quand un objet arrive sur Terre, une météorite, tout de suite, elle est contaminée par la Terre. Donc, dès qu'on a de la matière organique vivante, on contamine. Et c'est de la même manière quand on doit aller sur Mars, pour se garantir qu'on ne va pas contaminer le sol, ce sont des procédures extrêmement élevées. Donc on est polluant. On l'a vu avec les sondes Apollo qu'on laissait, on a des débris spatiaux dans l'espace de partout. On est des êtres qui, effectivement, polluons tout notre entourage.
Fukushima, c'est quand même sidérant.
Mais j'allais dire même sans technologie, c'est-à-dire le simple fait d'être, on pollue. Si moi je vais dans un désert sur Mars, vous me laissez... Vous venez 10 ans après, vous trouverez des traces de vie à l'opposé sur Mars. C'est-à-dire que ça se répand extrêmement vite. On sait absolument quand il y a une vie quelque part sans avoir à être là où est la vie. On peut aller dans des déserts, on aura des traces de vie.
Ça, c'est la pollution positive, si c'est la vie qui se transporte avec.
Oui, on appelle quand même ça de la pollution parce que finalement, ça fait des déchets aussi. Oui. Donc, mais c'est vrai. Et alors, la deuxième chose, c'est que l'intelligence artificielle, c'est sûr que dans les films à la Terminator, on voit des êtres extrêmement intelligents. Probablement, on avancera beaucoup là-dessus, parce que qui aurait dit, il y a même, quand on regardait Star Trek et qu'on voyait le Kirk avec Spock se parler par écran interposé, moi, quand j'étais gamin, je voyais ça, je rêvais, maintenant, je fais ça, FaceTime, avec mes collaborateurs, depuis n'importe où, n'importe quelle chambre en Chine ou au Japon. Bon, donc, on est incapable d'extrapoler. Mais c'est vrai que pour l'instant, il faut quand même savoir que même les plus gros ordinateurs, qui font des calculs en parallèle, qui reconstruisent l'univers, ils ont un âge mental de moins de 4 ans. Donc, même... ça prend énormément de temps pour arriver à développer une intelligence. Et encore, ça sera une intelligence logique, parce que pour la rendre vraiment intelligente sur la base de l'intelligence humaine, il faudra, mais peut-être qu'on y arrivera, à y mettre aussi le caractère irrationnel de l'être humain qui, en fait, contribue à cette intelligence. Par exemple, Mozart, il y a eu des ordinateurs qui ont été mis au service de la musique pour essayer de créer des morceaux musicaux. Et effectivement, ils font des morceaux, les analystes musicaux diront que c'est des morceaux super logiques, mais ils n'ont pas l'imperfection qui fait que c'est beau. De la même manière, si vous faisiez des dessins de bande dessinée par un ordinateur, je ne suis pas sûr que ça serait aussi beau que ce que vous faites avec votre main.
Mais ça revient à la conversation tout à l'heure sur le fait que les IA ne se révolteraient pas, parce que c'est une vision anthropomorphique, en fait, c'est de penser qu'elles se comporteraient comme nous, alors qu'elles seront très différentes. Mais en même temps, elles vont naître à notre contact, donc c'est très ambigu. Si elles ont l'apprentissage, si elles ont la capacité d'apprentissage d'un enfant de 4 ans, elles peuvent devenir un adulte de 20 ans. Donc là-dessus, c'est ce qu'on appelle la singularité hein, en ce moment dans la Silicon Valley, qui est l'idée que dans 20, 25 ans, on va arriver à un point où on ne sait pas ce qui va arriver.
Oui, moi je crois que le plus intéressant là-dedans, le plus problématique, je dirais, inquiétant, c'est qu'effectivement, les codes numériques qu'on utilise, qu'on développe, deviennent tellement complexes que, alors qu'ils sont faits pour être prédictifs, c'est-à-dire je fais un programme informatique pour guider une sonde spatiale, ça devient tellement compliqué qu'à un moment donné, il n'est pas impossible qu'il y ait des bugs qui font que ça rend la machine imprévisible. Et ça serait ça le danger, parce que tant qu'on programme et qu'on sait ce qu'on programme et qu'on sait comment la machine va se comporter, à la limite, on ne la craint pas, puisqu'elle passe quand même d'abord par nous. On est un peu les dieux de ces machines, on les programme. Mais il y a un moment donné où on est tellement dedans, et vous n'imaginez pas le nombre de bugs qu'il y a même dans un programme mis à bord d'un avion, hein, il y en a toujours. Des warnings, comme on dit quand on compile les codes, il y en a toujours. Mais on ne les craint pas, parce qu'on a testé tout ce qu'il faut pour que l'avion soit sûr. Heureusement, ça reste
pour que le régulateur de vitesse ne bloque pas.
Voilà, au moins les trucs les plus sûrs. Mais il y a des bugs. Donc il y a un moment donné où on aura tellement mis la main en plusieurs siècles dans tous ces codes, etc., que je crois qu'il y avait un dessin animé qui s'appelait Ghost in the Shell, c'est à peu près basé là-dessus. Où justement, il y a un petit fantôme à l'intérieur du code qui fait qu'on a l'impression que la machine se comporte de manière presque humaine parce qu'elle est buggée, en fait. Et du coup, on prévoit plus ce qu'elle est capable de faire. Et ça, effectivement, ça peut produire des caractères erratiques, mais ce sont les plus dangereux.
There are a couple of relevant scenarios here. One involves the Synapse program that DARPA is undertaking with, I believe, the Swedes. Essentially, an attempt to basically build a hardware and software emulation of a working human brain. They claim to be sort of up to the cat level in software and the mouse level in hardware at this point. And they expect that by 2017 they will have something which, at least in terms of the mechanics of its operation, replicates the behavior of a human brain right down to the synaptic level. The question of whether it wakes up at that point, we do not know. But that is a situation in which presumably one could imagine a rebellious AI, because if what you're basically doing is porting a human being or porting a human mind over into silicon, you're presumably porting the brainstem as well. You're presumably porting all those evolved responses. And that could be asking for trouble. The other possibility is that of a genetic algorithm. Dawkins came up with something called a biomorph as a teaching aid back in the 1980s. In which you basically just create a little artificial object and you have random number generators assigned to its different parameters. And each generation, the random number generators just basically roll a dice. And you sort of stepping in for a capricious god, arbitrarily select, instead of nature, the resultant offspring that you like, and that one gets used as the seed for the next iteration. And it seems to me that you could have an evolutionary process like that. That happens very, very fast, generations per second, because you have an evolution at electronic speeds. And the only thing that shapes that is what your criterion for success is. If the criterion for success is merely a replicative success, then the internet is very rapidly going to get clogged with intelligent spam bots and essentially parasitic bits of software. If something is selecting for intelligence or for a will to survive, I don't know how exactly you would select for that. If you're doing that, I think you could very rapidly bootstrap yourself up to something that would be beyond our ability to control. I'd like to finish this little diatribe by asking if either of you expect Moore's Law to top out anytime soon, because that's obviously relevant here.
On croit toujours, mais on ne sait pas quand ça arrivera. C'est très dur de prédire ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc la loi de Moore, c'est bien celle où on atteint la limite de la capacité des processeurs.
C'est la loi de Moore, c'est celle du, disons grosso modo, du doublement des puissances des processeurs.
C'est ça. Voilà. Alors, on croit toujours qu'on atteint l'asymptote et pourtant on ne l'atteint pas. Et là, on a maintenant l'ordinateur quantique qui est la prochaine génération. Et alors, c'est là que se posera la question. Si on arrive à faire un ordinateur quantique, pour le coup, je ne pense plus qu'il y aura d'asymptote. Et en plus, c'est là qu'on va avoir un ordinateur qui va pouvoir fonctionner comme une particule à son échelle, c'est-à-dire que, comme vous le savez peut-être, en mécanique quantique, on oublie le côté déterministe, la physique déterministe de Newton. Les particules sont soumises aux lois de probabilité dans la fonction, dans la façon dont elles réagissent. Et là, on atteint quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, certaines personnes pensent que l'être humain n'a pas de libre arbitre, c'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on vit, ce que l'on dit, quand on croit qu'on choisit, tout ça est issu de processus chimiques et quantiques à l'intérieur de notre cerveau. On est fait d'atomes et de particules, donc ce qui vaut pour la matière pourrait valoir pour nous. Et à ce moment-là, les choix qu'on fait, ce sont toujours des critères de choix, comme le font les particules pour être dans une position ou dans une autre. Le chat de Schrödinger, qui est un des pères de la mécanique quantique, avait imaginé cette expérience. Il disait, si je mets un choix dans une boîte, tant que je ne le regarde pas, il est à la fois mort et vivant. Et en fait, c'est le simple fait de le regarder qui va lui donner son état. Si on est vraiment régi par les mêmes lois, à ce moment-là, le jour où on arrive à faire un ordinateur quantique, il pourrait réagir comme nous. On pourrait imaginer ce scénario un peu science-fiction. Et à ce moment-là, on aurait des robots qui pourraient fonctionner comme des humains.
Denis, une opinion sur la loi de Moore ?
Simplement, moi, je ne lis que ce que je vois. Et l'université de la singularité qui a été lancée par Google donne des tonnes d'informations là-dessus. Et eux, ils parlent de 25 ans. Alors, est-ce que ce sont des milliardaires fous qui vont être trop vite, ou est-ce que c'est des gens qui voient très bien que l'explosion des puissances de calcul à leur disponibilité, puisque ces gens ont des data centers qui maintenant commencent à consommer des pourcentages d'électricité fabriquée par l'homme, peut-être que ces gens pensent tout bêtement, peut-être même qu'ils sont déjà en train d'observer des comportements erratiques à ce niveau-là, qui leur permettent de penser que ça va même apparaître tout seul. Mmh. Parce qu'on n'est pas totalement à l'abri que cette masse de calcul buggée, parce qu'elle est buggée. Tout est buggé. Moi, je fais du développement logiciel. J'utilise des outils pour compiler mon code parfait, évidemment, qui eux-mêmes sont buggés et introduisent des comportements buggés dans le processeur d'un code qui est parfait, évidemment. Donc, on est dans un monde buggé. Or, le bug, c'est exactement l'équivalent de la radiation ou de l'accident de reproduction dans la génétique qui permet l'évolution. Donc, en fait, actuellement, l'informatique évolue toute seule. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont intelligentes, mais elles évoluent, et on parlait bien de cycles très courts, et elles le font à une échelle qui est celle de l'ensemble des réseaux de calcul mondiaux.
Merci, Denis. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de poser aux participants une question de la fin, et la salle non plus n'aura pas eu l'occasion de poser une question aux participants, mais la plupart d'entre eux restent sur place aux Utopiales. Vous pourrez les rencontrer durant des séances de signature ou après d'autres tables rondes, et ils pourront peut-être répondre à vos questions. Et alors maintenant, nous avons malheureusement atteint l'heure fatidique. Il est 19h. Je veux remercier tous les participants pour cette discussion très stimulante. Alors, et j'espère que la salle aussi les remerciera. Merci.
Merci.